VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Anastasie Tudiesch, ravie d'être avec vous ce vendredi 25 décembre et bienvenue dans ce monde aujourd'hui un peu spécial. Noël oblige, après un court bulletin d'information, nous allons ensemble profiter de presque 30 minutes d'un programme préparé par la rédaction, la rétrospective de l'année 2015. Mais tout de suite, place au journal, Anne Albertson m'a rejoint. En République centrafricaine, les autorités ont proposé jeudi de reporter au 30 décembre le premier tour des élections présidentielles et législatives prévues dimanche. La présidente de transition, Catherine Samba-Panza, lors d'une réunion avec l'autorité nationale des élections, a clairement posé la question du report, à quoi la présidente de l'autorité nationale des élections a proposé le 30 décembre, une annonce applaudie par les partis en présence. Les causes du report sont multiples, formation des agents électoraux à parfaire, difficulté d'acheminement des bulletins de vote à l'intérieur du pays dans un contexte d'insécurité totale. Selon l'AFP, la Cour constitutionnelle devrait se réunir ce vendredi pour valider ou infirmer la date du 30 décembre.
Au Kenya, la police a mis en garde hier, à la veille de Noël, contre un risque accru d'attaque d'islamistes somaliens Shebab, après que certains combattants ont changé d'allégeance, passant d'Al-Qaïda au groupe État islamique. Pour le responsable de la police, les Shebab doivent prévoir de prouver leur puissance et leur indépendance en organisant des attaques. Cela nous met en danger réel d'être frappés par ces éléments meurtriers, a-t-il ajouté sans donner plus de précision. C'est la première fois que le Kenya reconnaît la présence de factions ayant prêté allégeance au groupe État islamique dans le pays. Le Kenya est l'une des cibles privilégiées des Shebab depuis octobre 2011, date à laquelle il a commencé à fournir un contingent militaire à la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM.
Accident tragique en République démocratique du Congo, où un Airbus A320 cargo de la compagnie Service Air a terminé sa course au-delà des limites de la piste à Mbujimayi dans la région du Kasaï. Un agent de la régie des voies aériennes a affirmé sous couvert d'anonymat que les 7 personnes tuées étaient toutes dans leur maison au moment de l'accident dans les parages de l'aéroport. Le 14 décembre, lors d'un discours aux parlementaires, le président congolais Joseph Kabila avait affirmé que le ciel congolais, je cite, n'inspirait plus la frayeur aux aéronefs en ligne. Le gouvernement a lancé, avec des partenaires étrangers, un programme de réhabilitation et de modernisation des aéroports.
En Côte d'Ivoire, Sébastien Dano-Djedjé, un ancien ministre proche de Laurent Gbagbo, a bénéficié hier d'une mesure de liberté provisoire après 7 mois de détention pour avoir affiché son soutien à l'ex-président ivoirien poursuivi par la Cour pénale internationale, a-t-on appris de sources concordantes. Poursuivi pour discrédit sur une décision de justice, violence et voies de fait sur les forces de l'ordre, rébellion et atteinte à l'ordre public, M. Djedjé avait participé le 30 avril à une réunion de frondeurs du Fonds populaire ivoirien ayant désigné M. Gbagbo président du parti, une démarche qui avait été jugée sans aucune valeur par la direction du FPI.
Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi se sont assurés jeudi à Moscou de leur soutien mutuel sur la scène internationale. Les deux pays ont, selon le président russe, signé des investissements communs représentant $1 milliard. Mais sur la vente éminemment stratégique du système antiaérien russe S-400, rien n'a filtré. Une telle acquisition ferait de l'Inde le 2e pays étranger doté de tels missiles après la Chine. Un contrat qui, selon les experts, nécessitera davantage de négociations.
En Argentine, après 39 ans de recherche, l'une des fondatrices des grands-mères de la place de Mai, Maria Chicha Mariani, vient de retrouver sa petite fille, enlevée par un policier à l'âge de 3 mois après l'assassinat de sa mère pendant la dictature argentine entre 1976 et 1983. L'annonce des incroyables retrouvailles a été faite via la page Facebook de la fondation, assortie d'un selfie immortalisant la grand-mère et sa petite fille. La page Facebook ajoute que Clara Anaï, dont la photo bébé a été diffusée pendant des décennies à chacun de ses anniversaires, a cherché inlassablement à retrouver sa grand-mère, jusqu'à faire reconnaître scientifiquement leur lien génétique, établi à 99,9%.
Le pape François a exhorté jeudi soir, lors de la messe de la veillée de Noël, les 1,2 milliard de catholiques dans le monde à chercher sobriété et sens de la justice dans une société éprise d'apparence et de narcissisme.
Dieu nous appelle à un comportement sobre, c'est-à-dire simple, équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre l'essentiel, a affirmé le Saint-Père dans une basilique comble à l'occasion de cette fête qui est avec Pâques l'une des deux célébrations centrales du christianisme. Le pape François a poursuivi, dénonçant une culture de l'indifférence qui finit par être impitoyable et juger que doivent cesser toute peur et toute frayeur pour les chrétiens en raison de la lumière que constitue la naissance de Jésus.
Voilà pour le journal. Au nom de toute la rédaction de VOA Afrique, nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël, dans la sobriété pourquoi pas, mais entourée de vos proches. Restez avec nous, à venir un programme spécial, une rétrospective de l'année 2015, avec tous nos correspondants dans les différents pays.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de notre édition spéciale du Monde aujourd'hui consacrée à la rétrospective de l'année qui s'achève. Quel bilan de l'année 2015 en Afrique, des changements survenus au Burkina Faso, aux attaques de Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Tchad, en passant par la controverse du troisième mandat au Burundi, au Rwanda, en RDC et au Congo-Brazzaville. VOA Afrique revient sur les grands événements socioculturels, politiques et sportifs qui ont marqué l'Afrique cette année. John Lyndon à la présentation, Joselle Maurice à la production. Merci pour votre fidélité. S'il y a une actualité qui a fait parler du Mali cette année à travers le monde, c'est bien l'attaque terroriste contre l'hôtel Radisson Blue de Bamako. Une attaque qui a fait 22 morts d'après les officiels. 2015 a donc été une année de ni paix ni guerre au Mali, nous dit notre correspondant, et la route vers la paix semble encore longue, malgré les efforts des communautés. Kassim Traoré.
Tout a commencé le 17 janvier 2015. Où la base de la MINUSMA à Kidal a été attaquée par un camion suicide et des djihadistes armés. Mais les casques bleus tchadiens repoussent l'attaque. Quelques assaillants sont tués. Un tchadien est tué aussi et un autre blessé. Trois mois après, c'est-à-dire le 7 mars 2015, il y a eu un attentat à Bamako. Un commando de deux hommes ouvre le feu dans un bar et restaurant à côté d'une boîte de nuit. Cinq personnes sont tuées, dont trois Maliens, un Français, un Belge et fait 8 blessés. Bamako enregistre du coup son premier attentat terroriste.
J'entendais des coups de feu et puis après un moment, il y a eu du calme et puis le monde est sorti. D'abord, qui courait de tous les côtés au début parce qu'il y avait des coups de feu. Mais après, quand il y a eu du calme, c'est les gens qui venaient par curiosité. Ils venaient pour prendre des informations et tout. C'était la panique quoi. C'était la panique totale.
Les Bamakois, en apprenant cette nouvelle, n'étaient pas surpris car il y a eu beaucoup de signaux avant ces crimes.
Nous voyons vraiment l'insécurité grandissante dans notre ville. Ça, c'est un truc vraiment qui fait extrêmement peur. Et nous demandons vraiment à l'autorité malienne vraiment de s'attendre pour essayer de mettre fin tout de suite à ça, vu l'état actuel du pays.
Le 15 avril à Ansongo, l'explosion d'un véhicule piégé conduit par un kamikaze blesse 9 casques bleus nigériens. 2 ont été sérieusement blessés. 3 civils ont été tués et 7 autres blessés. Comme tout cela ne suffisait pas, le 11 juin 2015, Fakola, Misseni sont attaqués par des groupes terroristes. Oumar Mariko, député élu à Kolongeba.
Il y a beaucoup d'interprétations de l'accord. Cela peut être un facteur. Des gens qui veulent qu'ils soient pris en compte, qui pensent déjà que ces accords-là sont des accords qui sont contre leurs intérêts et qui favorisent que le Mali n'a de respect que pour ceux qui prennent des armes. Parce que dans tout le pays entier, ce qui est constatable, c'est que l'État joue dans la plus grande injustice.
À 170 km de Bamako, plus précisément à Nara, à l'est, le 30 juin 2015, les djihadistes font une excursion. 9 d'entre eux sont tués. Un garde malien aussi perd la vie. Baye Diakité, maire adjoint de la commune de Nara.
5h du matin,
l'attaque a démarré à 5h du matin par des coups de feu nourris vers le camp de Nara. Après, nous avons constaté que c'était des djihadistes à travers leur habillement et leur mode d'attaque. Toute la ville, toute la population était tirée chez elle.
Après le 7
mars 2015, Bamako fut attaqué le 13 août 2015. C'était au niveau de l'autogare. Un mendiant qui se trouvait au carrefour a été touché, tout comme un policier dans l'attaque perpétrée par des djihadistes. Puis intervient l'attaque la plus meurtrière à Bamako, celle contre l'hôtel Radisson, dont le bilan est de 22 morts, dont 13 de nationalité étrangère. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Je voudrais que vous recevriez, en le nom de la République du Mali, son gouvernement, son peuple tout entier, l'assurance, notre totale sympathie et solidarité avec vous, votre peuple et votre communauté, qui en aucun cas devrait se sentir en insécurité au Mali. Vous l'avez dit, dans le monde entier aujourd'hui, où que l'on soit, New York, Paris, Londres, Moscou ou ailleurs, nous avons le même ennemi. Nous menons le même combat. Nous avons là affaire à des monstres. Contre la bête, l'humanité a l'habitude de se dresser. Encore une fois, le choix ne nous est pas laissé. Le monstre n'est pas mort. La bête est loin d'être morte. Nous devons la combattre ensemble.
L'hôtel Radisson a réouvert ses portes 25 jours après l'attaque, c'est-à-dire le 15 décembre. Mais les attaques djihadistes contre les positions de l'armée malienne continuent aussi. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre suite à l'attaque contre l'hôtel Radisson de Bamako. Mais les djihadistes ne baissent pas les bras. Le 11 décembre dernier, ils ont attaqué la position de l'armée malienne à Nyono. Deux soldats sont portés disparus. Ils sont partis aussi avec une arme lourde. Avant Nyono, il y a eu une attaque au niveau de Mopti. C'était à l'entrée même de la ville. L'attaque s'est déroulée le 9 décembre dernier.
Par rapport à l'an 2015, nos attentes n'ont pas été du tout comblées. Parce que par rapport à l'évolution politique du pays, on espérait que l'année 2015 est une année de paix. Mais malheureusement, toujours les problèmes du Nord font que la situation politique dans ce pays tarde.
La situation reste tendue avec les attaques terroristes. Les groupes armés et le gouvernement malien ne parviennent pas à accorder l'air violent quant à la mise en application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Alors que dans la capitale malienne, une bataille semble être ouverte sur la composition d'un nouveau gouvernement, avec ou sans l'actuel premier ministre Modibo Keïta. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Direction le Sénégal. Pour notre correspondante, 2015 a été une année assez mouvementée, avec un climat politique délétère entre le pouvoir et l'opposition. Des procès qualifiés de mascarade, il y a eu de la matière. Et sans oublier le terrorisme qui a donné des sueurs froides à ce pays connu pour sa stabilité. Les hauts et les bas de l'année 2015 au Sénégal, c'est avec Soknana Tambay.
Des pays l'ont vécu ces dernières années d'une façon ou d'une autre. Et pour 2015, le Sénégal en a eu un aperçu. Le terrorisme, l'arrestation de plusieurs imams en octobre et novembre dernier, des discours radicaux et trois fausses alertes à la bombe, l'une à l'hôtel Radisson de Dakar. Terrifiant quand on sait qu'il y a eu un attentat dans un hôtel du même nom à Bamako.
Le président Macky Sall hausse le ton et avertit. C'était lors du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique.
Nous ne saurions accepter chez nous qu'on vienne nous imposer une autre forme de religion qu'on n'a pas connue jusque-là, comme l'islam modéré et tolérant. Et donc ça, c'est une question de la société tout entière. Ce n'est pas seulement l'affaire des États. Lorsque l'on voit des formes nouvelles, par exemple de port, de voile intégral dans nos sociétés, alors que ça ne correspond ni à notre culture, ni à nos traditions, ni même à notre conception de l'islam, nous devons avoir le courage.
Le terrorisme serait-il en train d'installer ses bases au Sénégal? Certains préfèrent ne pas y croire, d'autres cherchent des explications. Et la première raison trouvée, la pauvreté. Les jeunes et surtout ceux de la banlieue dakaroise sont exposés, attirés par l'argent, qu'ils soient issus du terrorisme ou pas. Pourtant, le FMI a plus ou moins alerté avec son rapport publié cette année. Le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde. Le ministre des Finances, Amadou Ba, ne veut pas y croire.
Il ne faut pas parler d'une information qui n'est pas sérieuse. On a accusé le Fonds monétaire à tort. Je pense que M. Roger Nord, qui est ici présent, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est le directeur adjoint du département Afrique. C'est lui qui a présenté les perspectives économiques de l'Afrique à Lima il y a quelques jours.
Le représentant du FMI pour l'Afrique, Roger Nord, affirme que notre pays conserve la place de l'année dernière. Mais quand le dollar, la monnaie de référence, subit des fluctuations, le CFA ressent les conséquences. Le dollar est en hausse en ce moment, notre PIB est en baisse et forcément, nous rentrons dans le club des 25 pays les plus pauvres au monde.
Si vous regardez les prix exprimés en dollars, vous avez raison, mais le régime de change et la monnaie locale ici n'est pas le dollar.
Économiquement, le Sénégal a connu d'énormes difficultés. En dehors de ce classement, il y a le chômage avec un taux de 13%, mais aussi l'État a des problèmes pour harmoniser ses politiques. La plupart des grands travaux sont confiés à des étrangers et ne profitent pas à l'économie du pays. Ce sont donc des centaines de milliards de francs CFA qui échappent à nos caisses. Quelle stratégie pour rectifier le tir lors de la prochaine présidentielle peut-être? Il faudrait d'abord s'entendre sur la date et le processus électoral. Macky Sall avait promis de faire 5 ans au lieu de 7. Pour y arriver, soit modifier la constitution, soit par voie référendaire. La polémique a pris le dessus dans les débats politiques. Le chef de l'État veut y mettre un terme.
J'ai pris la décision de réformer la constitution. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas attendre ce que je vais proposer? Mais tous les jours, dans les radios, on commente, on fait des débats. Attendez mes propositions, il ne sert à rien d'en parler. Tant que celui qui doit poser le débat ne le fait pas.
Personne ne peut me forcer à dire demain c'est le référendum, vous devez le faire. En vertu de quoi? De mes engagements, mais laissez-moi les mettre en œuvre.
L'opposition, elle, pense que le pouvoir veut faire machine arrière. Elle a donc déjà engagé le combat à l'Assemblée nationale avec des coalitions, mais aussi en dehors du terrain politique. Le PDS, Parti démocratique sénégalais, et ses alliés bataillent dur pour la libération de Karim Wade. Le fils de l'ancien président et ancien ministre a été condamné à 6 ans de prison ferme en mars dernier par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ses avocats ont boycotté la fin du procès, dénonçant une violation des droits de leurs clients. Et que dire du procès de l'année, celui de Hissène Habré, ancien chef d'État tchadien accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Son procès s'est ouvert le 20 juillet dernier devant les chambres africaines extraordinaires.
Aujourd'hui, dans le monde entier, nul ne peut ignorer l'étendue des horreurs que le peuple tchadien a subi de 1982 à 90.
Depuis lors, il y a eu des suspensions d'audience et environ 90 témoins se sont succédés à la barre. Et tous à charge. Les victimes jubilent. Les avocats de la défense refusent de défendre Habré sur ordre de celui-ci. Il est malmené les premiers jours et on lui commet des avocats. Aujourd'hui, les interrogatoires sont terminés et les plaidoiries vont commencer en janvier.
C'est une fin de match. Avec la joie, la sérénité.
2015 a été aussi l'année du bonheur, de la consécration, avec la 11e victoire en finale de l'Afrobasket féminin. Face au Cameroun, pays organisateur, les Lions ont remporté ce nouveau titre. Cette année s'en va avec son lot de joie et de déception. 2016 pointe le bout de son nez et tous espèrent de meilleurs lendemains. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
Merci Sokna pour ce bilan. Au Congo-Brazzaville, 2015 a été une année marquée par de graves incidents dus au changement de constitution. Plusieurs acteurs politiques du pays reviennent sur cet événement, alors que d'autres analystes évoquent le succès des 11e Jeux africains que la capitale congolaise a accueillis. Le point avec Ngouéla Ngoussou.
L'année 2015 aura été marquée par un événement majeur, le référendum constitutionnel du 25 octobre. L'ancien ministre Alain Akwala salue ici une avancée démocratique dans l'instauration d'un autre nouveau au Congo-Brazzaville.
C'est un événement majeur, un événement clé, parce que je crois qu'il va marquer la fin d'un cycle politique, d'une séquence importante de l'histoire politique de notre pays, et ouvrir un autre cycle, que je dirais une séquence qui pourra permettre l'émergence d'une nouvelle culture politique. Et là, bon, il y a eu un débat qui s'est engagé avec des positions contradictoires, parfois extrêmement marquées, avec le risque que nous avons vu le 20 octobre, où il a failli avoir quelques dérapages, quelques échauffourées, dans une situation un peu de confusion politique, sociale dans le pays. Donc à titre personnel, personnel, j'étais dans ces endroits où j'ai rencontré beaucoup de jeunes.
Une analyse battue naturellement en brèche par l'opposant Clément Miarassa, qui garde du triste souvenir de l'année qui s'achève.
Moi, ce qui m'a réjoui, c'est l'illustration qui a été faite à la population qui n'a pas voté, de ce que le pouvoir est prêt à tout faire avec des résultats qui ne correspondent pas à la réalité des choses. Et contrairement à ce que le pouvoir pensait, ce référendum n'a pas résolu les problèmes. Bien au contraire, c'est pour ça que nous conseillons et nous avons conseillé aux populations congolaises de lire et de relire cette constitution pour bien se rendre compte qu'il n'y avait vraiment pas nécessité de changer la constitution et que cette démarche n'a fait qu'enfoncer davantage le Congo dans une crise profonde. Et c'est regrettable.
Dans la même lancée, Jean Itadi, président du Congrès africain pour le progrès, compare le Congo à un trou noir creusé par un débat sur le changement ou non de la constitution.
C'est l'année calamiteuse que nous venons de faire. On n'avait pas besoin qu'il y ait des dizaines de morts à Brazzaville et à Pointe-Noire pour uniquement demander que le Congo respecte sa constitution. On n'avait pas besoin de ça. D'autant qu'on se retrouve dans une impasse aujourd'hui, avec une constitution abrogée et une constitution nouvelle votée, promulguée, mais qui ne s'applique pas, parce que c'est l'ancien régime qui est aujourd'hui en train de vouloir inscrire dans les faits la nouvelle République. C'est impensable.
Sur le plan social, l'enseignant Serge Kalat revient sur de graves incidents qui ont émaillé le lycée congolais lors de l'annulation des épreuves du baccalauréat.
Ils ont commencé par casser les tables bancs, brûler les pneus, agresser même certains enseignants qui se sont présentés au site parce que tout le monde n'était pas informé à temps que l'examen était annulé. Il aurait fallu qu'on prenne la décision. Peut-être même après que les enfants aient fini de composer. Ça reste dans les annales de l'année 2015 parce que ça interpelle les enfants qui ne doivent pas compter sur les épreuves qui se retrouvent dans la rue. Ça interpelle les enseignants qui se sont mis à aider ces enfants à traiter ces épreuves qui se sont retrouvées dans la rue. Ça interpelle enfin le gouvernement au premier chef parce que c'est lui qui choisit les personnes susceptibles de gérer, de manipuler ces épreuves.
En 2015, l'Afrique s'est aussi retrouvée à Brazzaville dans le cadre des 11e Jeux africains et le journaliste sportif Guy Saturné Mawungu de la Semaine africaine rappelle le succès qu'a connu cet événement.
Bien sûr, c'est un événement exceptionnel et ça a été vraiment une belle réussite. Tous ceux qui sont arrivés à Brazzaville sont d'avis qu'on a vécu vraiment de bons moments. Des scènes sublimes à l'ouverture comme à la clôture. Le Congo a rattrapé quand même un retard du point de vue des infrastructures. Aujourd'hui, on peut dire que le site de Kinté est le plus grand au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et Brazzaville est peut-être l'une des rares villes qui dispose d'un grand nombre de salles de sport. Ça n'arrive pas dans beaucoup de capitales africaines.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, la voix de l'Amérique.
Au Niger, tentative de coup d'État déjouée, arrestation et puis surtout la dure réalité des attaques de Boko Haram qui pour la première fois a frappé ce pays, faisant de centaines de morts en février 2015. Rétrospective avec Abdul Razak Idrissa à Niamey.
La tentative de coup d'État déjouée par le gouvernement aura été un des faits majeurs qui auront marqué l'année 2015 au Niger. L'annonce a été faite la veille de la célébration du 57e anniversaire de la proclamation de la République par le chef de l'État Issoufou Mahamadou dans un message à la nation. Elle intervenait quelques jours après une vague d'arrestations dans les milieux des officiers des forces armées nigériennes. Deux jours après cette annonce, le ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim de son homologue de la Défense, a donné à la presse les détails de ce complot de ces officiers de l'armée nigérienne.
Ils avaient projeté de faire cette action le vendredi 18 au retour du président du défilé militaire de Maradi. Parce que, semble-t-il, ceux qui connaissent, c'est le moment le plus favorable quand la garde présidentielle rentre. Il semble que c'est le moment le plus favorable pour eux pour pouvoir intervenir et neutraliser la défense du président. Ils ont été suivis depuis près d'un mois. Ils sont tous aux arrêts. Les officiers et sous-officiers qui ont permis de déjouer leurs tentatives témoigneront des échanges de SMS et de correspondances entre eux sont à la disposition de l'enquête.
L'année 2015 a été également particulièrement douloureuse pour le Niger. De centaines de civils et de militaires ont en effet été tués par la secte islamiste Boko Haram qui a pour la première fois attaqué le territoire nigérien en février 2015 au niveau de la localité de Bosso. Depuis, les attaques se sont multipliées. La plus emblématique est celle de l'île de Karamga.
Le bilan provisoire est le suivant. Côté forces de défense et de sécurité, 46 morts, 9 blessés, 32 portés disparus. 28 habitants de l'île ont été également assassinés par les terroristes. Le gouvernement et le peuple nigérien sont particulièrement horrifiés par cette ignominie.
Comment a été la réaction des populations et puis de...
Ils se sont éparpillés. Qui va rester? Personne ne va rester. Actuellement, je suis sur le point de quitter la ville. On s'est réveillé avec les tirs de roquettes aujourd'hui. C'est 6h du matin. On s'est réveillé avec ça, tout le monde. Voilà, actuellement, je n'ai même pas mangé ni boire.
Les autorités nigériennes se sont alors lancées dans la guerre contre cette nébuleuse, une guerre dont le Niger pouvait s'en passer, selon l'analyste politique professeur Issoufou Yahaya.
Si le Niger avait observé une certaine neutralité en prenant les dispositions pour contrer toute montée en puissance de Boko Haram sur le territoire national, je crois que le Niger aurait été plus efficace que déclarer péremptoirement, alors que dans la réalité, rien n'avait été mis en place conséquemment, puisque s'il n'y avait pas l'armée tchadienne, l'armée nigérienne aurait mis beaucoup de temps à contenir les assauts de Boko Haram dans les premières heures de la belligérance.
Les 16 et 17 janvier 2015, des manifestations sont organisées à Zinder et à Niamey pour protester contre la participation du président Issoufou Mahamadou à Paris à la marche pour la paix organisée par les autorités françaises au lendemain de l'attaque terroriste meurtrière contre le siège du satirique Charlie Hebdo. À Niamey, les manifestations ont été particulièrement violentes.
Le samedi 17 janvier 2015, nous avons enregistré 5 morts, dont 3 calcinés, 76 blessés, 189 manifestants ont été interpellés. 2 véhicules de la police nationale ont été incendiés. Plusieurs lieux de culte religieux, comme les églises, des hôtels et des bars, ont été sauvagement saccagés et brûlés. 15 familles chrétiennes se sont retrouvées dans la rue car leurs domiciles ont été endommagés. Pour les 2 jours de manifestation, nous avons interpellé 279 manifestants.
Pour le professeur Issoufou Yahaya, ces manifestations étaient l'expression d'un rejet des politiques publiques du régime en place.
Ce jour, le pouvoir a perdu le contrôle de la rue, si on peut le dire ainsi. Les manifestations anti-Charlie, en réalité, qui sont pour moi un rejet du régime en place, en tout cas, ça traduit la désapprobation sociale de la plupart des faits posés par les politiques.
Un autre fait majeur qui aura marqué l'année 2015 au Niger, c'est le retour au pays après plus d'une année d'exil de M. Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, présumé impliqué dans une affaire de trafic de bébés.
Toutes les unités de police et de gendarmerie sont instruites pour procéder à l'arrestation de M. Hama Amadou dès qu'il mettra pied sur le territoire national.
Aussitôt rentré, et comme l'a promis le ministre de l'Intérieur en exécution du mandat d'arrêt qui a été émis contre lui, Hama Amadou a été arrêté à sa descente d'avion, puis conduit dans une prison de Niamey. Hama Amadou avait déclaré revenir au pays pour se présenter à la justice qui le cherchait depuis plus d'une année, mais aussi pour se présenter aux élections générales de 2016, les présidentielles notamment, dont son parti politique l'a investi pour le représenter. Les préparatifs de ces élections ont également marqué l'année 2015 au Niger. Le juge électoral est récusé par l'opposition politique qui demande également un audit indépendant du fichier électoral, mais également un meilleur fonctionnement de la commission en charge de l'organisation de ces élections. C'est aussi en 2015 que le Niger a connu une des graves épidémies de méningite de son histoire. Elle a causé en effet des centaines de morts avec un retard des autorités sanitaires pour riposter contre cette maladie. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Nous sommes arrivés au terme de cette deuxième partie de notre Rétro 2015. John Lyndon était à la présentation, Joselle Maurice était à la production. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Restez au cœur de l'actualité en écoutant nos programmes en direct et sur voafrique.com.